Je le... Est-ce que tu m'entends, Luc?
Oui.
OK, voilà, t'es
et
là.
Voilà.
Très content de te jaser, cher ami. Qu'est-ce qui se passe avec le fameux porte-avions Abraham Lincoln? Ça fait presque 9 mois qu'ils sont en mer et on nous dit que les beaux matelots commencent à en arracher, puis pas à peu près, là.
Voilà, et ça a été confirmé par des inspections externes. C'est-à-dire que ce qui se produit avec les porte-avions, mais avec les marins en général, c'était arrivé pendant la COVID. Ça arrive parfois en temps de guerre, mais depuis le retour de Donald Trump à la présidence, les chiffres montrent qu'on reste en mer beaucoup plus longtemps. Dans le cas du porte-avions Abraham Lincoln, par exemple, il y a une part qu'on peut expliquer, justifier. On devait normalement avoir une mission qui allait de 3-4 mois, peut-être 5 mois, donc un déploiement déjà assez long. Mais on en est maintenant à 9 mois et on s'approche du record, toute catégorie, toute époque confondue, donc pour servir en mer. Donc on a passé le cap du 9 mois, du 260 jours en mer. Ouais.
Mais je comprends pas, Luc, je suis pas un spécialiste des porte-avions, là, mais on parle d'approvisionnement en eau potable, nourriture. On dit que le moral des marins est assez affecté. Il y a 2 personnes qui auraient tenté de mettre fin à leur jour dans les dernières semaines. Donc, c'est assez inquiétant pour eux. Y a-t-il un bateau qui va aller les ravitailler ou qui va aller leur prêter main forte ou peut-être même les remplacer?
Effectivement, ce navire est en route, donc il y en a encore pour un certain temps avant que le navire arrive à destination. Mais c'est ce qui est un peu troublant, ce qui a retenu l'attention, parce que d'abord, il faut préciser, ça arrive parfois quand on est sur un théâtre de guerre. Donc là, il y a de l'imprévu. C'est surtout les problèmes d'approvisionnement qu'on n'a pas accosté depuis très longtemps. Donc, beaucoup plus difficile de ravitailler le navire, puis on est en période de guerre. Mais ce qui est un peu troublant, c'est la version des familles. Parce que ce qu'on a appris dans les médias, ce sont les familles, finalement, qui ont averti les médias puis qui s'adressent aux autorités en disant « Ce déploiement-là est beaucoup trop long et voici où nous en sommes. » Et il y a des familles qui disent « Il y a des hommes à bord. » Tu as référé à 2 cas. Là. On a dû intervenir physiquement pour les empêcher de se lancer par-dessus bord. Donc, l'administration, à la fois le président et le secrétaire à la défense, qu'on appelle le secrétaire à la guerre sous Donald Trump, dans un cas, on a balayé du revers de la main. Donc, dans le cas de Pete Hegseth, on a dit non, non, ça a été dénaturé. Grosso modo, ce sont les fameuses fake news auxquelles on réfère souvent. Et Donald Trump, on a rajouté une couche en disant non, puis même leur déploiement n'est pas encore assez long. Donc, on est venu s'inscrire en porte-à-faux ou encore carrément balayer du revers de la main ce que les familles rapportaient. Et il y a, je répète, donc des experts indépendants qui disent « Nous avons des problèmes, une thématique de santé mentale qui est très importante et qu'on n'aborde pas ou à laquelle il faut s'attaquer. » Donc, il y a aussi ce qu'on fait, on est en pleine guerre. Le conflit est très impopulaire. Bien entendu, les retombées du conflit, surtout celles sur l'économie, sont très impopulaires. En politique intérieure, c'est un des 2 ou 3 sujets qui fait qu'on critique énormément l'administration Trump et le secrétaire à la défense ou le secrétaire à la guerre. Et la réponse de l'administration, c'est ben, il n'y a rien à voir ou encore ils auraient pu faire plus. Donc, pour les marins concernés, pour le porte-avions Abraham Lincoln, la situation tire à sa fin. On va bientôt aller les remplacer, mais ça ne règle pas le problème de fond ou le manque de transparence de l'administration. Maintenant, je répète, on est en période de guerre, ça survient, ça fait partie des imprévus, mais c'est la gestion de l'administration qui semble, dans ce dossier-là, être problématique.
On parle de 5 000 soldats qui sont à l'intérieur de ce bateau-là, le USS Abraham Lincoln, et là, il serait remplacé dans les prochaines semaines par le George Washington.
Voilà.
Okidou, est-ce que ça bouge un peu, là, le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël?
Ça négocie encore, peut-être pas les joueurs qu'on aimerait voir négocier, mais ça avance très peu et ça circule très peu dans le détroit d'Ormuz. Donc, on a quelques navires qui passent, quelques navires qui circulent. Bien sûr, des pétroliers, entre autres un pétrolier saoudien dont on a parlé un petit peu plus dans les médias. Mais ce qu'on entend comme négociation, c'est surtout, encore une fois, de la part du sultanat d'Oman et de l'Iran. Du côté américain, ben, on semble jouer la carte de la patience, mais encore là, en pleine période électorale, si on regarde du côté américain. Et sur la scène internationale, ben, on a évoqué cette fatigue, cette impatience, puis dans certains cas, cette colère de pays de la région, de pays même associés aux États-Unis, qui en ont assez de cette situation-là, qui perdure et qui ne semble pas avoir de solution à très court terme, voire même à court terme.
Est-ce que Jared Kushner a rencontré Benjamin Netanyahou dans les dernières heures concernant ce qui se passe dans la bande de Gaza?
Voilà, donc on attend des nouvelles de cette rencontre parce que le Hamas aurait répété à Jared Kushner qu'on est prêt à désarmer, qu'on est prêt donc pour ce qui est de la bande de Gaza à retirer nos armes, donc à les déposer, puis à ne plus de ce côté-là, d'un plan militaire, à ne plus offrir de résistance. Reste donc maintenant à savoir ce que Netanyahou et Jared Kushner, le gendre du président américain, reste à voir quelle réponse on va lui offrir. Et tout le monde, je pense, attend avec impatience parce que tout le monde sait à quel point le premier ministre est dans l'eau chaude en termes de politique intérieure. Si lui veut être reconduit dans ses fonctions et il veut avoir l'appui d'un nombre suffisant, donc, d'élus en Israël, ça m'apparaît très difficile pour lui de céder quoi que ce soit sur ce terrain-là. Les alliés de Netanyahou et son électorat, ils sont intraitables quand on parle de l'Iran ou encore quand on parle de la bande de Gaza. Donc, est-ce qu'il a une marge suffisante pour s'engager auprès de Jared Kushner? Ce serait plus, parce que ça arrive parfois dans les négociations, ce serait plus, écoute, on s'en reparle après l'élection, mais il y a une pression pour que les choses avancent maintenant, puis entre autres, une pression américaine. Ça devient sur la scène internationale difficile à défendre. Si le Hamas, puis on peut bien sûr douter du Hamas, là, la question n'est pas là, mais si le Hamas ouvre la porte et qu'il met la pression en disant nous, on est prêt à faire notre bout, qu'Israël ne réponde pas ou qu'Israël rejette, ça devient une position de plus en plus difficile à tenir. Et encore là, si Netanyahou est sous pression en politique intérieure, quand on regarde l'administration Trump ou qu'on regarde les élus républicains, bien, ça devient difficile à défendre aussi en politique intérieure que d'attendre trop longtemps ou encore de ne rien faire. Le mois de novembre, ça approche au grand pas, à grands pas. Donc, notre été tire à sa fin. Ce que ça veut dire pour les
Hey,
Américains, c'est qu'ils
hey,
vont
hey, 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 l'été tire pas à sa fin.
Ouais,
Arrête,
arrête,
arrête
ça, Luc, arrête.
Ouais, qu'est-ce que c'est ça? T'étais au Capitale jeudi, j'étais au Capitale hier. Il fait encore beau, il y a du bon baseball, Luc. Hey, Luc,
Ah, c'est extraordinaire.
mais ceci dit, c'est un discours de sourd présentement entre les États-Unis et Israël, puis je fais appel à ton passé d'enseignant d'histoire. Ça a-tu déjà été aussi froid entre ces deux pays?
C'est-à-dire que la nature des deux personnages qui parlent au nom d'Israël et qui parlent au nom des États-Unis, ça, c'est plutôt rare qu'on ait vu ça. Donc, Donald Trump nous entraîne souvent, ne serait-ce que par les mots, et parfois ça s'accompagne d'actions, et nous entraîne souvent dans un territoire qui est étrange. Est-ce que quelqu'un a déjà dit de Benjamin Netanyahou, il est complètement fou ce que Donald Trump a fait? You're fucking crazy, étaient les termes utilisés. Mais oui, il y a eu déjà des tensions et Netanyahou va tellement loin que ça place beaucoup d'Américains et de politiciens américains dans une situation difficile parce qu'on ne veut pas montrer qu'on serait anti-Israël et c'est parfois difficile de faire la distinction, les nuances pour dire ce qu'on n'aime pas, c'est ce que fait Netanyahou, c'est pas qu'on s'oppose à Israël. Et je regarde les démocrates en particulier, mais aussi certains républicains. Ça devient un jeu d'équilibriste pour ne pas perdre l'appui du lobby pro-Israël. Donc, ça devient un jeu d'équilibriste de se distinguer de Netanyahou et d'Israël. Mais c'est une période tendue. Je répète, ce n'est pas la première fois, mais on est dans un contexte qui est particulier.
Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair. Je veux terminer avec ce sujet-là. Elon Musk qui
Oui.
veut investir 100 millions de dollars pour soutenir l'équipe de Donald Trump, les républicains, aux élections de mi-mandat de novembre. On parle que Elon Musk aurait peut-être enterré la hache de guerre. Moi, mon hypothèse, c'est que tout ça, sa fameuse chicane, là, tout ça n'était que fumisterie. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté acheté des actions de la compagnie d'Elon Musk. Chaque fois qu'il parlait, ça descendait. Puis là, ben, quand j'ai vu que la chicane commençait à pogner, je me disais, oh, Colin, ça va être payant parce que là, Elon Musk va redevenir l'entrepreneur qu'il était. Moi, il n'y a rien de surprenant de voir ce 100 millions de dollars-là qui partirait des poches d'Elon Musk pour s'en aller pour les Républicains. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais?
D'abord, je pense que ton pari est intéressant. Tu as l'air d'être un investisseur assez oui. avisé parce oui. que ça n'allait pas.
Mais je parle juste, tu remarqueras, je parle juste de mes bons coups. Là. Je te parle très peu souvent de Lion électrique.
Donc, je ne suis pas surpris parce que puis ça vaudrait pour d'autres milliardaires également. C'est pour Elon Musk, pour plusieurs de ses projets, pour plusieurs de ses contrats, il a besoin d'un levier politique très important. Puis on lui a donné plus que des leviers politiques. Il a même été dans la machine, donc au début à l'intérieur avec le Dodge de la machine. Maintenant, est-ce que deux hommes qui ont des caractères très forts, qui sont parfois très spontanés, est-ce que ça se pouvait qu'on en arrive à se critiquer ou à vouloir ne pas partager les médias ou partager le crachoir? C'était un peu à prévoir qu'il puisse y avoir des frictions et on n'exclut pas même des jeux pour jouer avec les titres en bourse. Ça a déjà été évoqué ici. Mais donc, j'ai résumé ça en fin de semaine en disant c'est la nécessité fait loi. On a, et ça, ce serait un autre sujet, une autre chronique, on a une proximité aux États-Unis qui est particulièrement grande entre le pouvoir politique et ceux qui détiennent beaucoup d'influence et de pouvoir économique. Ça arrive souvent, mais on a une concentration qui est assez inédite. Et je ne suis donc pas non plus étonné qu'Elon Musk revienne à coup de 100 millions cette fois. Donc, ce qu'il veut préserver, c'est son levier politique. Et son meilleur coup, s'il a misé, la différence avec ce qu'il faisait avant, c'est qu'il pouvait appuyer des démocrates et des républicains. Mais là, il investit à fond dans les républicains en espérant, un, il a déjà Donald Trump qui est en place pour au moins un peu plus de 2 ans. Il risque d'avoir le Sénat républicain, donc, qui va l'emporter et maintenir sa majorité. Ce qui lui reste, c'est tenter d'intervenir pour sauver la Chambre du côté républicain. Mais il est sûr d'avoir au moins 2 éléments sur 3 qui vont être républicains. Et 2 ans en politique, c'est une éternité. C'est là-dessus, je pense, que mise Elon Musk.
J'ai aucune confiance en aucun politicien. Fait que tu comprends pourquoi j'avais l'impression que c'était de la fumisterie. Puis, je sais pas si c'est la semaine dernière. Ma mémoire est courte, Jeff. C'est mon cerveau ici dans cette émission-là. Mais son fameux réseau social, le Truth Social, qui a développé une application qui permettrait à des entreprises ouais. qui pourraient déplier des centaines de milliers de dollars d'avoir un accès privilégié au Truth du président américain qui aurait un impact sur la bourse. Luc, ça, c'est une catastrophe pour la démocratie. Là. Mais si t'es gentil, tu peux me prêter 70 000 $. Je serais intéressé, moi, par justement cet accès privilégié aux renseignements du président.
Je reviens sur 2 choses. D'abord, le fait que tu me dises « je n'ai confiance en aucun politicien », je pense que tu rejoins un nombre croissant de personnes. Et ça expliquait, entre autres, pourquoi Donald Trump avait été élu. Mais ce que beaucoup de gens constatent, c'est que c'est peut-être pas mieux, c'est peut-être pire maintenant que Donald Trump est là. S'il voulait vider le marécage, vider la swamp, comme il le disait, c'était peut-être pour être tout seul dans ce fameux marécage. Et ça, c'est littéralement quelque chose contre lequel on devrait s'élever, ce qu'il vient de faire. Et on le poursuit d'ailleurs devant les tribunaux. Mais vendre un accès à des informations privilégiées du président, donc tu vas apprendre la décision présidentielle sur Truth avant tout le monde, de sorte que tu puisses devancer d'autres investisseurs ou effectuer tes transactions, je vois pas en quoi c'est légitime. Parce que Donald Trump n'est pas séparé de Truth Social, même si lui dit... Non, non, moi, je gère ça. C'est quelqu'un d'autre qui gère.
Ah oui, oui. le quelqu'un d'autre crée la lettre majuscule très rapide et très fréquemment.
Et en plus, moi, je suis abonné à Truth Social, donc j'ai plein d'alertes du président, mais ai-je 100 000 $ pour aller te rejoindre dans tes transactions avec Tesla? Je le sais pas, Yannick.
Ah, ben, faudrait peut-être hypothéquer ta maison, mais on pourrait s'entendre. Là. Écoute, il n'y a pas de problème. Luc, la liberté, je suis toujours un plaisir.
Une bonne journée à tout le monde. Bye, bonne
Au
semaine.
revoir. Bye-bye. Luc La Liberté, l'excellent chroniqueur politique américain. Il est aussi producteur des capsules La Liberté en clair. Il en produit à peu près une par jour. Un résumé de la politique, de la politique américaine des dernières
Vraiment,
heures.
Vraiment, c'est un 5-6 minutes et vous allez tout comprendre.
Oui, c'est tout le temps intéressant, ces capsules. Vous allez avoir l'information bien souvent avant tout le monde. 418-971-1021, 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Merci d'être nos yeux, nos oreilles sur la route. C'est par texto, donc textez-nous si c'est possible, si c'est sécuritaire. Les sports. Mathias!
Oui, ben belle mention pour Jakub Dobesch, le gardien partant du Canadien qui termine à la 10e position du classement des meilleurs gardiens de la Ligue par NHL Network. Donc malgré le fait qu'il y a une seule saison complète dans la Ligue nationale, Jakub Dobesch qui se démarque déjà parmi les meilleurs gardiens. Pour le top 3, c'est Andrei Vasilevski à la première place, Connor Hellebuck à la deuxième et Igor Shesterkin à la troisième place. Ça suit les bons classements que Dane Hudson avait eu aussi notamment. Vous mentionnez triplé des capitales en fin de semaine, c'est deux victoires et une défaite face aux Boulders de New York. Samedi, ça mettait donc fin à leur série de 8 victoires consécutives. Les capitales qui reprennent l'action à domicile demain face à Sussex County pour 6 matchs de suite, dont 3 à domicile. Et je termine au tennis, Félix Auger-Aliassime qui a remporté son premier match au Masters de Cincinnati. Zela Fernandez, elle, qui s'incline en première ronde.
Merci beaucoup. Après la pause, on aura le plaisir de jaser avec l'ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, Roger Ferland. On va revenir sur cet accident qui a eu lieu vendredi soir sur le pont Pierre-Laporte, 23h20, où un individu roulait sens contraire et est allé rentrer dans d'autres personnes qui s'en allaient direction sud sur pont Pierre-Laporte. Des impacts qui sont quand même assez majeurs. Si vous avez vu l'état des véhicules, les véhicules étaient détruits. Scène de chaos, scène de film, ça a été décrit tel quel sur les ondes de boulevard samedi matin avec Audrey Pinchot, un témoin qui est un de nos chroniqueurs qui était sur place puis qui a vécu cet événement là avec sa famille. Ces gars qui étaient dans un véhicule un petit peu plus loin en arrière. Imaginez-vous, là, t'es sur l'autoroute à la fin du pont Pierre-Laporte, et là, tout d'un coup, ça s'arrête complètement. Puis là, t'as des gens, une marée de gens qui s'en viennent vers toi puis qui tapent sur ton char d'un fenêtre pour dire qu'il y a des gars qui sont en train de se tirer dessus puis il faut se sauver.
Le témoignage d'Éric Sauvé, c'était littéralement ça. Il dit « Je baisse ma vitre ». Le monde disait que deux mots, fusillade, tireur.
Exact. Donc, tu comprends que tout le monde a quitté. Puis, je vous raconterai exactement ce qui s'est passé avec Roger Ferland, ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, qui va être avec nous dans les prochaines minutes. Juste avant la pause, sur la route, comment ça se passe?
Oui, juste vous mentionner, ralentissement pour les deux ponts en direction nord. Autre que ça, ça circule bien.
Pour nous informer de ce qui se passe dans